Vous êtes dans le cours des psaumes, ceux qui sont sur l'estrade, ceux qui sont à la technique, ceux qui sont partout, nous sommes ensemble dans le cours des psaumes. Le cours survol de la Bible. Je m'excuse, tu as raison. OK, alors vous êtes dans le cours survol de la Bible. On est rendu dans le livre des psaumes. Et on va se courber ensemble dans un mot de prière, s'il vous plaît. Eh bien, Père éternel, je veux te remercier, Seigneur, pour ta parole. Ta parole qui est vivante, qui me fait du bien chaque semaine, chaque jour, Seigneur, lorsque je viens me pencher sur tes Écritures et que j'invite ton esprit à me parler, à m'instruire, à m'édifier, à m'éclairer, à me guider, à ranimer mon cœur lorsque mon âme est abattue, Seigneur, à lui redonner de la vie. Je veux te rendre grâce, Père, pour le livre des psaumes en particulier, qui est un livre tellement, tellement cher à mon cœur, Seigneur, et qui a su relever, fortifier, encourager, ramener à toi, Seigneur, tant de millions de cœurs à travers les âges. Je prie, Père, de nous bénir ensemble ce matin. Je prie, Père, de nous aider à comprendre ta parole pour en recevoir tout ce que tu veux nous donner. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, on est dans le cours survol de la Bible. Nous sommes rendus à la leçon 12. Ce matin, nous allons voir ensemble le livre des psaumes. Et il reste des feuilles de notes sur la petite table dans l'entrée. Avec le livre de Job, nous sommes entrés dans une nouvelle section de l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler, qui peut nous rappeler comment est-ce qu'on appelle généralement cette portion-là? Les livres poétiques ou les livres de sagesse, d'accord? Je dirais que sagesse, ça englobe aussi Job, tout ça, mais même Job est écrit dans un style poétique, donc on est dans des livres poétiques. Quels sont les livres de sagesse? Quelqu'un qui peut nous dire de quel livre on parle? Évidemment, Job, je l'ai dit, psaume cette semaine. Ça s'arrête où, ça? Les livres poétiques, ça s'arrête où? Les livres de sagesse? Oui, Chantal. Avec le Cantique des Cantiques, d'accord? Alors, Job, psaume, proverbe, et puis le Cantique des Cantiques. Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, d'accord? Quelqu'un qui voudrait nous mentionner votre psaume préféré. Pourquoi est-ce que c'est votre psaume préféré? Il n'y a personne qui demeure insensible au psaume. Oui, Tatiana. Le psaume 23, le classique des psaumes. Pourquoi? OK, ta mère vous le récitait régulièrement. C'est le premier que tu as appris par cœur. C'est bon, ça? Oui, Stéphane. Le psaume 22. C'est un psaume messianique, extrêmement clair, extrêmement puissant lorsqu'on le replace à l'époque où il a été écrit. De voir la dimension prophétique de ce psaume-là, c'est extraordinaire. Oui, Marissa? 27. C'est quoi? À vaincre tes peurs avec le psaume 27. Oui, c'est bon. C'est bon. Une dernière personne? Votre psaume préféré? Le psaume 119. C'est qui a dit ça? OK. Ben moi, c'est un de mes psaumes préférés. C'était une blague que tu faisais ou tu étais sérieuse? OK. Oui, moi aussi. Moi, c'est un de mes psaumes préférés. Pourquoi c'est ton psaume préféré? Une des choses que j'aime beaucoup dans le psaume 119, c'est qu'on voit à la fois le désir du croyant, puis en même temps la confession de la faiblesse du croyant, comment il a besoin que l'Esprit de Dieu l'assiste. C'est comme s'il est en train de dire « Je voudrais, Seigneur, mais si tu ne me pousses pas dans le dos, je pense que j'y arriverai pas. » Et donc ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup du psaume 119. Je vous partage un dernier verset, psaume 51. Je vous dirais, dans les deux dernières semaines, c'est vraiment le verset qui... c'est le psaume de confession de David, lorsque David est confronté par Nathan. Et le verset 12 est le verset qui m'a frappé dans les deux dernières semaines. David s'exclame en disant « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et vraiment, c'était la première fois, en lisant ce psaume-là, c'était la première fois que la dimension dynamique de la repentance, que je le saisissais à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a une décision de la part de celui qui est confronté par Dieu. Donc, il a une décision à se repentir, à prendre. Puis en même temps, tout au long du psaume, on voit cette idée que je n'arriverai pas par moi-même. J'ai besoin, Seigneur, que tu m'annonces que tu m'as pardonné. J'ai besoin que tu me dises que je suis libéré. J'ai besoin maintenant que tu me donnes un esprit bien disposé. Alors, cet élément-là dynamique, cet élément-là vivant de la repentance qui ne se vit pas seul dans le cœur du croyant, c'est la première fois que ça me frappait comme ça et ça a vraiment fait du bien à mon âme. Alors, le livre des psaumes est un livre vraiment extraordinaire. Évidemment, on parle de poésie. On n'a pas abordé toute la question du genre poétique en arrivant dans le livre de Job, simplement parce que Job en lui-même soulève tellement de grandes questions existentielles qu'on s'est concentré un petit peu plus sur ça. Mais ça vaut la peine, et c'est ce qu'on va faire ce matin, on va parler un petit peu plus du genre littéraire, poétique, et plus particulièrement même du genre de poésie hébraïque. Alors, on l'a déjà mentionné au début du cours dans le survol, qu'il y a différents genres littéraires dans les Écritures. Qu'on parle de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on aborde différents genres. L'Apocalypse lui-même, par exemple, est un genre, c'est le genre apocalyptique. Et donc, ce sont des genres littéraires, et chaque genre littéraire, là, je ne parle pas juste de la Bible, je parle en général, chaque genre littéraire a des règles propres à lui-même. D'accord? Si vous décidez de prendre un poème d'Émile Néligan et de lire ça, vous avez des règles qui sont là. Si au contraire, vous allez vers Jean de La Fontaine, bien, vous êtes encore dans de la poésie, mais oups, on s'en va dans des fables. Et là, il y a d'autres règles qui doivent être appliquées si je veux bien comprendre les images qui sont là. Parce qu'à l'intérieur du genre poétique, je m'en vais dans quelque chose de plus précis encore. On aurait pu demander à Ellie de nous expliquer c'est quoi les genres littéraires, puis elle pourrait nous faire un exposé de 3 heures là-dessus, puisqu'elle étudie en littérature, mais il y a toutes sortes de subtilités. Et lorsque tu comprends, lorsque tu arrives à identifier dans quel genre de littérature tu te trouves, bien, il y a des règles qui viennent avec ça, qui te permettent de décoder ce que tu es en train de lire. D'accord? Par exemple, pour donner un autre exemple, si on va dans les évangiles, on n'est pas dans un récit historique classique tel que nous l'entendons aujourd'hui. On n'est pas dans c'est un mélange entre le traité, le pamphlet politique et le livre d'histoire quand vous allez dans les évangiles. C'est un mélange un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est pas un travail d'historien qui veut nous dire exactement à quel moment chacun des événements se sont produits. Il veut nous convaincre d'une idée, il veut transporter un message à travers ça. Et donc, c'est possible qu'il y ait certains événements qui ne soient pas exactement à la même place, tout ça. Lorsqu'on sait ces choses-là, puis qu'on lit les évangiles, bien, il y a certaines choses qui tombent en place et qui font du sens. Non seulement pour mieux les accueillir, puis mettre de côté un peu certaines critiques, mais pour mieux comprendre le message. Parce que, par exemple, si Jean nous dit que Jésus est le pain de vie, il nous rapporte cet enseignement-là où Jésus dit qu'il est le pain de vie, mais je vais aller chercher pour voir s'il y a des résonances à ce message-là ailleurs dans l'Évangile de Jean, à cause du genre littéraire où je suis. Lorsqu'on arrive dans les psaumes, bien, on est dans un genre poétique. Est-ce qu'il y a des gens pour qui la poésie, ça a toujours été quelque chose d'obscur, d'hermétique, qui est comme... Vous n'avez pas cette facilité-là à saisir des subtilités poétiques. Politique, je m'excuse, poétique. Est-ce qu'il y en a? Non? Tout le monde, c'est facile? Mon épouse a beaucoup de difficultés. Esther a beaucoup de difficultés. On lit de la poésie. Si c'est simple, elle va trouver ça beau. Mais souvent, le second sens, elle ne le saisit pas. Elle ne le voit pas, il ne vient pas à son esprit du tout. D'autres personnes ont beaucoup de facilité à saisir ça parce que dans leur esprit, ils vont passer du concret à l'imagé très, très, très rapidement. Puis on peut se laisser emporter par une image, pas perdre le fil conducteur, l'idée qui a fait qu'on a pris cette image-là, se laisser entraîner un peu par l'image, puis garder le fil conducteur. Ceux qui ont plus de difficultés, c'est comme si, à un moment donné, l'image prend toute la place, puis là, OK, c'est quoi le rapport? On parle le lien avec l'idée principale. Oui, Gérard?
Plus je comprends le contexte, plus je comprends le cœur de Dieu, plus je de situation, plus jeune de position.
Super. Excellent. Et donc, ce matin, j'espère vous donner quelques clés qui vont vous aider à comprendre un peu mieux les prochaines fois que vous allez lire les psaumes. D'accord? C'est ce que j'espère faire. On va parler de la poésie hébraïque, puis on va parler des différents genres de psaumes aussi, en eux-mêmes. Qu'on parle de psaumes imprécatoires, par exemple, pour partir avec les plus effrayants, ou des psaumes de repentance, des psaumes messianiques, tout ça. Alors, l'élément le plus important au niveau de la poésie hébraïque, c'est le parallélisme. C'est l'élément qui est remarquable, qui est facile à identifier. Il y aurait beaucoup d'autres choses qu'on pourrait mentionner, mais déjà, si vous pouvez saisir cet élément-là et puis apprendre à le voir lorsque vous êtes en train de lire, ça va clarifier beaucoup de choses dans vos lectures. Le parallélisme, quelqu'un qui voudrait nous expliquer c'est quoi le parallélisme à l'intérieur des psaumes? Il y en a qui savent déjà ça. De quoi je parle lorsque je parle de parallélisme? Ça va être une comparaison. Ça va être une comparaison, exactement. Alors, très souvent dans les psaumes, l'auteur va avoir une seule idée qu'il va dire de deux manières. Parfois, il va renforcer son idée en présentant le contraire. Parfois, il va renforcer son idée en ajoutant une petite nuance. Parfois, il va renforcer son idée en disant strictement la même chose. D'accord? Un peu de la même manière que si j'arrivais à Patrick puis je dirais, mes amis étaient bien chic aujourd'hui, Patrick. Puis après ça, je rajouterais quelque chose comme, ton apparence est charmante. J'ai dit comme la même affaire deux fois. D'accord? Et c'est important de le savoir parce que quand je suis en train de lire, ben, je vais chercher quelque chose. Je veux m'en aller ailleurs. Nous, lorsqu'on parle, on ne va pas répéter deux fois la même affaire. On va dire à quelqu'un, mais là, tu te répètes. C'est de la poésie, d'accord? Et le parallélisme est constant dans les psaumes, il est très présent dans les proverbes, et on va le retrouver ailleurs, même ça va nous aider à comprendre lorsqu'on va arriver, par exemple, dans les épîtres de Jean. Parce qu'il y a un peu de ça qu'on retrouve dans les épîtres de Jean aussi, d'accord? C'est vraiment un style qui est hébraïque comme approche de la littérature. Alors, on va regarder quelques exemples de parallélisme. Il y a le parallélisme synonymique, qui est vraiment un synonyme. On est en train de dire une deuxième fois, en gros, la même chose. Et essayer de trouver une nouvelle idée là-dedans, ça peut juste nous amener à s'égarer souvent. Alors, on a des exemples. Psaume 19:3. Le jour en instruit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a rien dit de neuf dans la deuxième partie, d'accord? À quoi ça peut servir d'avoir une approche comme ça à la poésie? À quoi ça peut servir, cette affaire-là? Philosophie un peu avec moi. Quoi ça peut servir de radoter? Renforcer? Oui. À quoi ça sert de radoter? Pardon? Affirmer? Oui, c'est ça, renforcer, affirmer. Nuancer? Des fois, il va y avoir des petites nuances. Oui. Et donc, ce que ça peut me permettre de faire, c'est que dans la première déclaration, ben, je vais comme m'en tenir à quelque chose. Puis si je le répète, je répète la même idée, mais juste dite autrement, je suis en train de faire sortir un principe. D'accord? Je suis en train de dire, ce principe-là est plus large que juste le jour. Je suis en train de vous dire que le temps avance et le temps continue. D'accord? C'est ça que je suis en train de dire. Un autre avantage de ça, et c'est ce que le genre poétique devrait produire en nous, c'est que ça m'amène dans une disposition de méditation. Lorsque je suis en train de lire de la poésie, bien, je vous donne un exemple. Ceux qui sont familiers avec le livre des Proverbes, il y a quand même beaucoup de chapitres des livres des Proverbes. Si tu décides que ce matin, tu lis trois Proverbes, je veux dire, on s'entend que tu les lis pour trouver deux versets que tu trouves intéressants, parce que dans un Proverbe, il y a déjà 18 idées différentes. Si je fais la comparaison, par exemple, avec les évangiles, bon, ben, le récit de la naissance de Jésus, je commence le récit, puis bon, ben, ils vont nous rencontrer la révélation avec l'ange, et puis là, on va arriver au voyage, après ça, à la naissance. Tout ça, ça se tient, puis je vais lire deux, trois chapitres, puis j'ai l'impression d'avoir fait un bout de chemin avec eux. Ça se tient d'un bout à l'autre. Lisez trois proverbes le matin pour le fun, à part certaines sections des proverbes. Vous n'avez pas lu une idée, là. Vous avez lu 38 idées. D'accord? Fait que là, parce que c'est ça, c'est des petites sentences de deux phrases, 4 phrases au maximum, puis une fois qu'il a fait sa sentence, il part sur une autre idée complètement. C'est quoi l'avantage d'avoir ce style-là? Bien, c'est justement, c'est que la poésie est là pour ralentir mon rythme de lecture, puis m'amener juste à m'arrêter sur une idée, puis rester là. D'accord? Alors, pour ceux qui ont beaucoup de difficultés à méditer la parole de Dieu, je vous dirais qu'il y a des gens qui lisent la Bible qui en tirent peu de choses. De temps en temps, il y a un verset qui les touche. Il y en a qui lisent la Bible pour étudier la Bible. Ils veulent découvrir des choses sur Dieu, ce qui est très bon. Mais il faut aussi lire la Bible pour méditer la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Et donc, on trouve cette idée, psaume 119 que Caroline citait tout à l'heure, on trouve cette idée dans les Écritures et particulièrement dans les psaumes que je veux garder la parole de Dieu dans mon cœur. Le genre littéraire poétique me permet, m'incite à faire ça, puisqu'il me fait tourner un petit peu en rond sur une même idée, pour que je la repasse dans mon cœur, puis il lui donne des angles qui sont plus larges que simplement une déclaration. Si je prends exactement le même verset, psaume 19:3. Le jour en instruit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Si j'avais juste dit le temps file, c'est une information. Vous comprenez? Mais si je pars avec ça puis je commence à réfléchir à ça, je commence à réfléchir à ce que ça veut dire sur ma vie. Ce que ça veut dire sur ma vie, c'est que je vais continuer à garder les yeux focusés sur Dieu. Hier est passé, demain réserve d'autres choses. Je reste avec Dieu, je reste dans le maintenant. Je ne reste pas dans mon angoisse d'hier, puis je ne me préoccupe pas juste de demain. Je vais laisser le Seigneur m'instruire de jour en jour, me conduire de jour en jour. Mais si je vous dis juste le temps file, là, mon idée a filé aussi. Alors voyez-vous, le genre littéraire poétique nous incite à la méditation. Nous incite à rester là, puis à laisser cette idée-là tourner un peu en boucle dans notre tête, pour que tranquillement puisse se dégager des applications dans ma vie. Que tranquillement, je peux se dire, finalement, c'est assez profond, cette affaire-là. Puis si je peux juste garder cette pensée-là dans mon cœur aujourd'hui, ben prenez par exemple exactement celui qu'on vient de dire. Je suis dans ma journée, puis je vis des stress, puis je vis des difficultés au travail, puis je vis des difficultés avec les enfants, puis je vis de la pression, puis tout ça. Si j'ai juste le verset 3 dans mon cœur, je dis, OK, Seigneur, ça me rappelle que toi, tu es éternel, que les temps, les journées filent, puis toi, tu es là. Puis demain, c'est un autre jour. Puis je vais m'attendre à toi. Puis je ne veux pas être dans l'instant juste du moment où j'ai l'impression que là, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon enfant, avec mon épouse, avec mon époux, avec mon travail, avec ma santé, la terre vient d'arrêter de tourner. Mais non, ce verset-là vient de me dire que la terre, elle n'arrête pas de tourner, puis Dieu continue son histoire. Puis je pense juste avec ça, puis ça vient de changer quelque chose dans mon attitude pour toute ma journée. Là, j'ai médité. D'accord? Là, j'ai médité à ce moment-là. Un autre exemple de parallélisme synonymique, psaume 103:11, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Ben, c'est ça. Je peux essayer de trouver des grandes différences entre les deux lignes, là, mais il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Ce sont des synonymes qui m'aident à ralentir mon rythme et à méditer. Parallélisme antithétique, c'est-à-dire qu'ils vont dire exactement le contraire. Et qui vont encore une fois m'aider à réfléchir, car l'Éternel connaît les voies des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Dans un sens, j'aurais pu dire l'Éternel connaît la voie de tous les hommes et il sait que les justes seront avec lui puis les pécheurs seront damnés. J'aurais comme tout dit l'idée puis ça aurait été comme plus simple, ça aurait été juste une proposition. Mais ici en poésie, voici ce que je veux dire, car l'Éternel connaît la voie des justes. Ça veut dire, si tu es en train de marcher devant Dieu, tu es en train de marcher, tu es en train de faire le bien, Dieu connaît ton chemin. Dieu connaît le chemin que tu dois suivre, Dieu connaît ton cœur. Il est là, tu marches sous le regard de Dieu. Sois assuré que Dieu apprécie ce que tu es en train de faire. Et Dieu connaît aussi la voie des pécheurs, parce qu'il connaît leur fin. D'accord? Alors, c'est par antithèse, il nous parle des justes, il nous parle des pécheurs, il nous parle de la destinée des deux. Proverbe 14:15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Voyez-vous, alors il oppose le sage avec l'insensé. Ça va? Parallélisme constructif. Alors là, oups, on va ajouter. La deuxième ligne va venir ajouter une nouvelle idée qui ferait que la première serait un peu incomplète. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Phrase simple, ça aurait été de dire, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. D'accord? Je suis dans de la poésie. Je suis dans de la poésie, c'est chanter. Et c'est là pour que ça rentre dans notre cœur. Alors là, on construit. Là. J'ai pas juste un synonyme, j'ai pas une antithèse, j'ai une construction. Est-ce que ça va, ça? Ou c'est relativement simple quand même, là? Ça, c'est clair pour vous? Et donc, lorsque vous lisez les proverbes, lorsque vous lisez les psaumes, soyez attentifs, faites l'exercice un petit peu, dire, OK, c'est quoi que j'ai ici? Des fois, c'est pas évident. Des fois, c'est vraiment pas évident. Souvent, ça va l'être, et ça vous permet de saisir, finalement, le cœur de ce qui est là. D'accord? Ça peut apparaître contre-productif à notre rythme à nous. Vous savez, là, on arrive à fin décembre, on va se préparer en janvier, l'Église va arriver avec un défi de lecture, on veut vous encourager à lire les Écritures. Puis là, tu arrives dans ces affaires-là, puis tu dis, oh, mais j'ai 2 chapitres à lire ce matin, puis j'ai 15 minutes. Ça fait que ça peut sembler contre-productif de dire, non, je vais m'arrêter sur ce psaume-là, là, juste sur ce verset-là. Là, parce qu'il y a quelque chose à tirer de ça. Alors, les psaumes, différentes sortes de psaumes, si on peut dire. Et encore une fois, saisir la sorte de psaume que j'ai devant moi m'aide à comprendre de quoi ça parle, m'aide à comprendre l'idée. On va parler avant du livre, je m'excuse, on va parler du livre lui-même. J'étais perdu ici. Quel est le rôle du livre des psaumes dans la Bible? Quelqu'un qui peut nous dire à quoi ça sert, cette affaire-là? La louange. Quoi d'autre? Converser avec Dieu. C'est ça que je vais faire sortir un petit peu ici. Le livre des psaumes nous permet d'accéder au cœur d'un être humain dans sa relation avec Dieu. D'accord? Je l'ai déjà dit dans le cours, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je vais le répéter. Une manière de saisir les psaumes, de saisir les livres prophétiques. Quand je m'en vais dans les psaumes, je rentre dans le lieu secret d'un adorateur. Je rentre même dans son cœur. Et donc, j'ai accès au cœur d'un croyant. D'accord? Quand je m'en vais dans les livres prophétiques, je m'en vais dans le lieu secret de Dieu. J'ai accès au cœur de Dieu pour voir comment Dieu nous voit, nous, comment Dieu voit son peuple. C'est pas à trancher au couteau comme ça, mais vous avez deux angles. D'accord? Quand vous voulez aller dans la dimension relationnelle, lorsqu'on parle de relation entre l'homme et Dieu, bien, il y a deux personnes. Il y a Dieu, puis il y a nous. Quand je veux aller puis comprendre comment ça se passe dans le cœur d'un adorateur, je m'en vais dans le livre des psaumes. Puis quand je veux savoir comment est-ce que Dieu regarde les hommes sur la terre, je m'en vais dans les livres prophétiques. Parce que si généralement on va entendre Dieu parler de ses joies, de ses tristesses, de ses déceptions, de ses espoirs, de ses colères, ça c'est des livres prophétiques. Quand je m'en vais dans les psaumes, on entend l'adorateur parler de ses joies, de ses tristesses, de ses déceptions, de ses colères, envers Dieu même souvent. D'accord? Donc, on parle de relation avec Dieu. Psaume, c'est la perspective de l'homme. Les prophètes, les livres prophétiques, perspective de Dieu. C'est une manière simple de le retenir. Puis c'est une clé aussi pour le lire puis en tirer davantage. Alors, le livre des psaumes est précieux pour les croyants depuis des milliers d'années parce qu'il nous permet de devenir des adorateurs qui adorent vraiment en livrant tout leur cœur à Dieu. Sans retenue, aller dans toutes les zones secrètes, difficiles de nos cœurs, nos colères, nos tristesses, nos déceptions, nos joies. Ça, c'est donc un livre qui est extrêmement précieux aux croyants depuis des milliers d'années. Oui?
On retrouve ça un peu le côté prophétique dans les psaumes?
Oui, il y a des prophéties dans les psaumes. Ben, OK. Il y a des prophéties dans toute la Bible. D'accord? Il y a peut-être 2-3 livres là, où on ne trouverait pas vraiment quelque chose de très, très prophétique. Mais il y a des éléments prophétiques un peu partout. Par exemple, lorsqu'on est dans les livres historiques, de la Genèse jusqu'au livre poétique, ben, il y a des prophéties qui sont faites. Moïse est un prophète, David est un prophète. Et donc, on va trouver des prophéties. Mais quand tu regardes l'ensemble du livre, ce qui le caractérise, c'est que ce n'est pas un livre prophétique. C'est un livre historique, puis il y a quelques prophéties qui apparaissent dedans. D'accord? Quand je m'en vais dans les évangiles, Jésus fait des prophéties. Donc, il y a des prophéties dans les évangiles.
D'accord? Mais ce n'est pas un livre prophétique à proprement dit. Ce n'est pas ça son genre principal. Quand je m'en vais dans les livres prophétiques, c'est de la prophétie. Il y a un peu d'informations historiques. Des fois, la prophétie va prendre un style un peu poétique aussi. Mais en gros, c'est de la prophétie que j'ai ici. D'accord? Et donc, la même chose dans les psaumes. On va le parler tantôt des psaumes messianiques. Il y a quelques psaumes qui sont vraiment, vraiment clairement prophétiques. Dans le sens, ils parlent du Messie à venir. Donc, ils sont messianiques, mais ils parlent d'un Messie à venir. C'est une prophétie. Il y en a quelques-uns. Mais en gros, ce qu'on a lorsqu'on s'en va là, c'est qu'on entend le cœur. On entend le cœur de l'homme qui veut être dans sa communion avec Dieu. Date de rédaction, ben en fait le thème est difficile à résumer. Dieu est le seul Dieu digne d'être adoré, loué, glorifié par ceux qu'il s'est choisi. Alors c'est vraiment cette relation-là où c'est mon seul Dieu, c'est le seul objet de mon amour, le seul objet de mon adoration, et c'est Dieu lui-même qui est venu vers moi, qui m'a attiré à lui. C'est un peu l'idée, on pourrait le résumer comme ça. Date de rédaction, la période est très longue. Les psaumes ont été écrits, grosso modo, là, à partir de la sortie d'Égypte, jusqu'à la fin des dates de rédaction du canon de l'Ancien Testament. D'accord? Jusqu'à 400 ans avant Jésus-Christ, grosso modo, là, vous avez des psaumes qui sont écrits. Donc, c'est vraiment sur toute une époque. C'est une espèce d'encyclopédie des prières, si on pourrait dire, faite par des gens qui ont été recueillis ensemble. Et donc, il y a eu un travail d'édition qui a été fait pour mettre tout ça ensemble puis organiser tout ça. Ce qui fait que lorsqu'on lit les psaumes, bien, on passe à un moment donné d'un psaume de David à un psaume de Moïse. Oh, OK. On fait des sauts dans le temps. D'accord? Ils ont été regroupés comme un recueil de prières. Ça va? Les psaumes, ce sont des prières. C'est un recueil de prières qui couvre toute cette période-là. Il y a des psaumes qui remontent jusqu'à la sortie d'Égypte environ, on parle des psaumes de Moïse, jusqu'à peut-être 400 ans avant la venue de Christ. D'accord? Et donc, on estime que le travail d'édition finale s'est terminé justement vers la fin, évidemment. Donc, 425 avant Jésus-Christ environ. Les auteurs, pour plusieurs des psaumes, les auteurs sont anonymes. On n'a vraiment aucun moyen de savoir qui les a écrits. Pour quelques psaumes, et en fait plusieurs d'entre eux, on a l'auteur, soit dans l'introduction qui est mentionné. On n'a pas plus d'indices historiques que ça, d'accord? Lorsque vous prenez les meilleurs ouvrages d'analyse des psaumes, d'études des psaumes, des commentaires bibliques, tout ça, il n'y a pas beaucoup d'autres indices qui nous permettent de définir qui sont les auteurs que les petites introductions que vous avez dans vos Bibles au début des psaumes. Simplement parce qu'il y a eu un travail d'édition qui a été fait sur cet ouvrage-là. D'accord? Alors, 73 psaumes sont attribués à David, 12 à Asaph, 11 au fils de Corée, Salomon 2, Moïse 1. Alors, dans certains cas, on a une idée de l'auteur, et ça va venir jouer sur notre interprétation, notre compréhension du psaume, parce que là, on peut le placer dans l'histoire. Et ça vient jouer énormément pour comprendre de quoi il est question. Le livre des psaumes est généralement divisé en 5 sections qui apparaissent davantage lorsqu'on va étudier l'hébreu. Ces 5 sections-là, parce qu'elles terminent toutes avec de la louange à Dieu. Donc, on peut voir 5 sections à l'intérieur du livre des psaumes. D'accord? Est-ce que ça va pour ça? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Alors, différents genres ou différents types, sortes de psaumes. Le plus commun, ce sont les psaumes de lamentation, d'accord? Où c'est vraiment le cœur qui va se répandre devant Dieu. C'est vraiment celui qui est le plus commun. Et ça parle à chaque fois de la détresse du croyant, de la détresse de celui qui vient vers Dieu. Il va y avoir des lamentations individuelles d'un individu ou d'un autre. Il va y avoir des lamentations pour le peuple de Dieu qui vient vers Dieu. Et on a une structure. Si vous regardez dans les notes à la page 3, une structure assez commune des psaumes de lamentation. Un appel à Dieu, une description de la détresse, un cri pour obtenir le secours, une déclaration de foi ou de confiance en Dieu, la confession d'un péché, un engagement à faire certaines choses si Dieu répond à la prière et une conclusion. Et donc, si vous prenez le temps de regarder des psaumes de lamentation, vous allez souvent pouvoir identifier ce parcours-là qui se fait. C'est pour ça qu'on s'en sert pour apprendre nous-mêmes comment on devrait prier à travers les épreuves. Parce qu'on voit cette boucle-là qui est bien équilibrée d'un cœur qui est honnête devant Dieu, qui va aller, je vais le dire en québécois, là, je m'excuse, chialer devant Dieu. D'accord? Donc, honnête avec Dieu, qui se permet de dire tout ce qui se passe dans son cœur, et puis qui en même temps n'en reste pas là, mais qui va terminer par revenir à l'Éternel, déclarer sa confiance en Dieu, s'examiner lui-même pour voir s'il n'y a pas un péché derrière tout ça aussi, personnel, et puis appeler au secours de l'Éternel. Donc, vous avez une structure assez générale pour les psaumes de lamentation. Et quand on passe par des épreuves, on devrait apprendre à aller vers ces psaumes-là, pour apprendre à vivre ça avec Dieu. Une des choses que j'ai apprises avec les années, puis avec le ministère pastoral, dans ma propre vie aussi, c'est que si je ne prends pas le temps de vivre ça, il y a des choses qui se passent dans mon cœur que je fais juste nier. Puis elles sont là, ces choses-là. Elles sortent avec des pensées d'amertume, des pensées de jugement, des propos amers, des propos durs, mesquins envers des gens autour de moi. Parce qu'en réalité, j'aurais dû prendre le temps d'aller me lamenter. C'est contraire à même une partie de l'éducation que j'ai reçue. Moi, quand j'étais jeune, on m'a appris quand c'est difficile, OK, tu finis là? Donne-toi un coup de pied dans le derrière et avance. C'est comme ça que j'ai été élevé. Je trouvais ça correct. Je me disais, gars, il faut faire de quoi de notre vie, là, on va arrêter de chialer. C'est comme ça qu'on m'a enseigné. Maintenant, ce que les Écritures nous enseignent, c'est vrai, même dans ça ici, vous voyez qu'à un moment donné, il faut bouger, je vais faire confiance en Dieu, puis je vais bouger. Mais il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour me languir devant Dieu, puis dire, Seigneur, ça fait mal. Où est-ce que tu es? Où es-tu, mon Dieu? Je ne te vois pas, je ne te sens pas. Tout ce que je sens, c'est les attaques de l'ennemi. Est-ce que tu as décidé de me faire du mal? Tu as décidé de me jeter dans cette fosse-là? C'est toi qui m'as jeté là, Seigneur? Il y a un temps pour faire ça. Et j'ai appris avec les années que lorsque je ne prends pas le temps d'aller dire ces choses-là, vivre ces choses-là devant Dieu, pour apprendre à ne pas rester là, évidemment, mais à prendre le temps d'aller vivre ça, en réalité, je rationalise des petites parties des choses qui me font mal, puis ça va ressortir. Ça vient fausser mon jugement. Ça fait que dans des moments, la semaine dernière, là, à un moment donné, je m'en venais au bureau ici, puis il s'était juste passé des petites affaires, puis je sentais de l'amertume qui montait dans mon cœur. Puis là, c'est comme, tu sais, c'est les pensées viennent, puis tu essaies de les attraper. Là. Tu voudrais juste comme dire, non, 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 non. Ah, mais ils sont là. Ça vient d'où? Ça vient de choses que je n'ai pas pris le temps de venir adresser avec Dieu. Bien souvent. Les psaumes de lamentation sont extrêmement utiles. Et on doit apprendre à les vivre puis apprendre de ces psaumes-là. Les psaumes de louange. Alors, ce sont des psaumes tout simplement qui sont tournés vers Dieu. C'est une célébration, mais souvent générale sur Dieu pour toutes sortes de raisons. Et on est en train de parler de l'Éternel. Alors, ça va être un appel à Dieu, un appel au peuple de Dieu à venir à la louange, même arbre, célébrer l'Éternel. Là, fait que c'est comme un appel à toute la création, dire « Non, mais Dieu est grand, tu sais. » Et donc, c'est un appel à la louange. Et il va y avoir des raisons qui sont données dedans. Voici pourquoi on devrait louer Dieu. Voici pourquoi on devrait adorer Dieu. Le psaume 19 qu'on vous a demandé de lire cette semaine ressemble beaucoup à ça. Un psaume de louange. Et puis une conclusion qui va répéter cet appel à la louange. Parce que mon cœur à moi est rempli de louange, je vais appeler les autres à la louange. Et donc, il y a un temps pour ça. Moi, je vous dirais, là, vous regarderez la structure des psaumes, là, toutes ces psaumes-là, à quelque part, notre foi puis nos états émotifs devraient ressembler un peu à ça. Fait que des fois, vous rencontrez des chrétiens qui sont comme, ils voudraient te faire à croire qu'ils sont toujours dans la louange. Ils sont toujours sur ce mode-là. Puis à un moment donné, tu réalises que c'est fourni, cette affaire-là. C'est pas vrai, là. Il y a des lamentations. Et donc, même dans nos rapports les uns avec les autres, on n'a pas toujours à être dans un état de louange. C'est faux. C'est quelque chose qui devient faux. D'accord? Mais il devrait y avoir ça aussi. Il y a des gens qui ont l'impression qu'eux autres, tout ce qu'ils ont lu dans la Bible, c'est les psaumes de lamentation. Ils ne savent pas c'est quoi la louange. C'est des gens tellement pessimistes, tellement noirs, tu sais. Puis même les psaumes de lamentation, ils n'ont pas appris tout ce qu'ils avaient à apprendre, parce que dans les psaumes de lamentation, il y a je parle à mon âme, puis je dis, mon âme espère en l'Éternel, parce que moi, je vais espérer en l'Éternel, tu sais. Mais ces moods-là devraient faire partie de nos vies individuelles et de nos vies comme dans notre transparence les uns avec les autres, et ça devrait être bien accueilli. les uns à l'égard des autres. Les psaumes d'action de grâce qui sont vraiment la nuance. C'est quoi la nuance entre la louange et l'action de grâce? Quelqu'un qui veut nous dire c'est quoi la différence entre la louange et l'action de grâce? Oui, David. C'est ça. L'action de grâce, c'est un remerciement pour ce que Dieu a fait ou ce qu'il a donné. La louange, c'est une adoration. Je suis concentré sur la personne de Dieu pour ce qu'il est ou ce qu'il manifeste de sa personne. D'accord? Je peux remercier un grand peintre de me donner un tableau et je peux louanger un grand peintre pour le tableau qu'il a peint parce qu'il est très beau. D'accord? Et c'est la différence entre les deux. Et donc, on a des psaumes d'action de grâce. Et encore une fois, les psaumes, c'est un journal personnel, souvent, qui est fait pour être lu par quelqu'un d'autre. Alors, on a notre sœur Claudette Bourdage, qui est allée rejoindre le Seigneur il y a quelques semaines. Et moi, j'ai été extrêmement édifié, je vais en parler un petit peu plus à l'église à un moment donné. Mais elle a tenu un journal pendant des années. Ceux qui connaissaient et qui avaient connu Claudette, c'est une dame qui a souffert physiquement beaucoup. Dans sa vie privée aussi, qui a beaucoup souffert. Mais elle tenait un journal personnel et je parlais avec son garçon, avec un de ses garçons, qui n'est pas chrétien probablement. Mais elle leur a laissé ses journaux. Donc elle les écrivait en sachant que, bon, ben peut-être que les super confessions croquantes, je vais les faire à Dieu, je ne les écrirai pas là, si je ne veux pas que mes enfants aient apporté ça comme souvenir de moi. Mais en même temps, son cœur était déversé là. Et ce qu'il me partageait, il dit, c'est incroyable à quel point elle a souffert. C'est une découverte pour lui de voir toute la souffrance que cette femme-là a vécue, sa mère. Et puis en même temps, de voir à quel point à chaque fois elle termine en se tournant vers Dieu. Puis à quel point il y a de la joie qui accompagne même la souffrance. Alors c'était un journal personnel qui était tenu en perspective de dire, mes enfants le liront plus tard, ma famille le lira plus tard. C'est ça ici les psaumes. Et donc ce que ça donne lorsque j'arrive au psaume, au troisième genre, les psaumes d'action de grâce, il y a encore une fois cet appel à remercier Dieu ou à louer Dieu. Le psalmiste a lui-même dans son cœur des actions de grâce, des remerciements qu'il veut exprimer, mais comme il est en train de le faire dans une prière qui va être lue publiquement, qui va être chantée publiquement, en réalité, il est en train de le faire pour susciter de l'action de grâce chez ses auditeurs aussi et qu'ils se joignent à lui pour rendre grâce. D'accord? Alors, ce sont les psaumes d'action de grâce. On a quelques caractéristiques encore, un appel à remercier ou à louer Dieu, un compte-rendu de la situation de détresse et de la délivrance. Alors, on n'est pas dans les lamentations, la délivrance a été opérée, c'est maintenant les actions de grâce. L'adoration de l'Éternel pour son salut, pour son secours. Une formule pour l'offrande de sacrifices, souvent des sacrifices eux-mêmes d'action de grâce. Une bénédiction pour les participants à la cérémonie et une exhortation. Plusieurs de ces psaumes-là sont liés aux célébrations de sacrifices. D'accord? Alors, certains des psaumes sont liés au rituel lui-même. Et donc, c'était des psaumes qui étaient écrits pour être chantés publiquement lors de ces rituels-là. Psaume de célébration, qui est vraiment juste un psaume de joie où on invite, on va célébrer l'alliance avec l'Éternel, puis on invite le peuple de Dieu à se joindre à nous pour célébrer l'Éternel. On en a plusieurs qui étaient faites pour les jours de fête juive, d'accord? Et donc, ce sont littéralement des psaumes de célébration. Je vais avancer un petit peu pour avoir le temps de parler des psaumes messianiques. Les psaumes de sagesse, ben, le psaume 119 serait classé parmi les psaumes de sagesse, d'accord? Ou des fois, tu as l'impression que tu es en train de lire le livre des Proverbes un peu. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous êtes familier avec le livre des Proverbes, on n'est pas nécessairement en train de dire une prière à Dieu, on est en train de dire un principe de sagesse. Et donc, le psaume 119, c'est un peu un psaume de sagesse parce que, oui, il y a des prières à Dieu, mais il y a aussi de l'enseignement qui est fait pour être donné, reçu par quelqu'un d'autre sur qu'est-ce que c'est la sagesse. Ce sont des psaumes de sagesse et ça ressemble parfois à des proverbes, des principes sages. Puis en même temps, c'est pas juste des proverbes parce qu'il y a une prière. Seigneur, aide-moi à marcher selon ta parole, aide-moi à garder ta parole dans mon cœur, aide-moi à recevoir ta parole. Donc, c'est une prière aussi qui va être là. Les psaumes imprécatoires, c'est des psaumes extraordinaires. Quelqu'un qui sait c'est quoi les psaumes imprécatoires? J'étais sarcastique quand je disais extraordinaire. Vous savez, c'est quoi les psaumes imprécatoires? Oui. Oui, alors c'est parfait, c'est très bien dit. Ce sont des psaumes où on appelle la justice de Dieu. D'accord? Ce sont des psaumes où on demande à Dieu littéralement d'intervenir dans une situation pour faire justice à celui qui marche avec l'Éternel. Et des fois, ils sont extrêmement durs, extrêmement directs. D'accord? Il y a des psaumes qui sont, des psaumes imprécatoires qui sont violents parce que j'appelle le jugement divin sur mon adversaire. Qu'est-ce que ça fait dans la Bible, cette affaire-là? Est-ce quelqu'un qui veut me dire ça? J'ai 5 minutes pour ça, puis on peut facilement passer une demi-heure là-dessus. Alors, allons-y, parce qu'on veut parler des psaumes messianiques. Qu'est-ce que ça fait dans la Bible, les psaumes imprécatoires? Moi, je vous avoue que c'est des psaumes avec lesquels je suis très à l'aise. Ils font partie de ma vie de prière. Oui, Flore. Alors, c'est des psaumes qui croient dans la justice de Dieu, qui croient que Dieu peut venir établir la justice. Souvent, ils viennent de David, et David est en train de dire, puisqu'on s'en prend à moi, on s'en prend à toi, je porte ton nom ici, Israël porte ton nom, et ceux qui s'en prennent à Israël, ceux qui s'en prennent au roi David, s'en prennent au nom de l'Éternel. Et donc, il est en train d'appeler Dieu à défendre son nom. C'est pratique de le demander, quand c'est toi qui portes le nom de Dieu, ça veut dire de te défendre toi aussi. D'accord? Oui, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que ça fait dans la Bible, les psaumes imprécatoires? Ça annonce que Dieu va juger un jour, définitivement. Daisy? Oui, de remettre la vengeance à Dieu. Quoique certains psaumes vont aller dans le sens de « fortifie mon bras ». Je suis le bras de Dieu. Tu sais? Fait que c'est à Dieu, mais je vais l'aider. Oui?
Ok,
je vais venir à ton commentaire en répondant à ma première question, puis je vais venir à ton commentaire. Alors, toi, ce que tu mentionnes, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments à réfléchir parce que dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous incite à aimer nos ennemis, à leur faire du bien et tout ça. Quelque part, ça soulève toute la question, où est-ce que se situent les psaumes imprécatoires? Patrick, brièvement. OK. Donc, ça semble qu'on... OK. Ça semble être contradictoire. D'accord. Merci. Premièrement, les psaumes imprécatoires, comme Élie l'a dit, nous rappelle que le Dieu que nous adorons est un Dieu de justice. Et que Dieu ne laissera pas l'injustice suivre son cours perpétuellement. Dieu va opérer sa justice, que ce soit du vivant, du méchant, ou que ce soit lorsqu'il va comparaître devant lui, la justice va avoir lieu. D'accord? Premièrement, ça c'est une réalité qui nous est rappelée. Si je veux vous transporter dans le Nouveau Testament, pour vous donner juste la perspective d'une prière imprécatoire faite par des chrétiens, on s'en va dans le livre de l'Apocalypse et on s'en va écouter la prière des martyrs dont le sang a été versé à cause de leur foi et qui dit « jusqu'à quand, éternel? Jusqu'à quand tarderas-tu à venger notre sang? » Et donc, il appelle à une justice. Là, on est dans le Nouveau Testament, là, d'accord? Ça ne ressemble pas à la prière de Jésus, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, là. » D'accord? C'est non, non. Ils ne savent peut-être pas, mais on attend que tu interviennes. Et donc, ce que ça nous rappelle, c'est que tout cet univers-là dans lequel nous existons a été créé par un être qui est éminemment compatissant, gracieux et éminemment juif, juste et saint. Je m'excuse. Juste, je m'en allais leur dire, et saint. D'accord? Et que donc, un jour, cette justice-là va paraître devant tout l'univers. D'accord? C'est ce que ça nous rappelle. Ça nous rappelle aussi que nous avons toujours le droit d'espérer dans la justice de Dieu. Alors, j'avance dans la vie et je vois des choses qui se passent. Vous savez, lorsque vous parlez avec des non-chrétiens et puis qui vous disent, moi, la raison pour laquelle je ne crois pas en Dieu, c'est à cause des horreurs qui se passent dans le monde. Regarde, je vais te parler de tel génocide, de telle place. Où est-ce qu'il y a Dieu? J'ai toujours aimé la réponse de John Piper qui dit « Dieu est en train d'amasser une montagne de colère qu'il va déverser pour toutes ces injustices-là, toutes ces infamies-là. » Et il est simplement en train de l'accumuler. Il n'est pas en train de fermer les yeux, il est en train de prendre des notes, C'est ça qu'il est en train de faire. Cette justice-là va être opérée un jour. D'accord? Et si je sors de cet univers-là, puis j'élimine cette possibilité-là, ben, je me trouve avec le Dieu bonbon qui dit, en fin de compte, fais absolument ce que tu veux, n'importe quand, ça n'a aucune incidence. D'accord? Sois juste si tu te sens mieux comme ça, puis sois méchant si tu te sens mieux comme ça. De toute façon, je vais effacer le calepin de tout le monde à la fin, le dossier de tout le monde. Alors ça me replace dans ce contexte-là. D'accord? Notre difficulté à nous, c'est lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament. Puis là, je vois ce Jésus qui vient, puis qui est tellement gracieux, puis qui nous dit, attendez un peu, les amis. Attendez un peu. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que je vais faire avec ça, ce Jésus-là, qui dit, non, faut que tu les aimes, tes amis, tes ennemis, faut que tu sois patient envers eux, puis il arrive sur la croix. Puis là, je me dis, oui, mais moi, c'est avec lui que je vais m'identifier. C'est vers lui que je vais me tourner. Bien, justement, nous vivons dans cette période. Et voici comment je le comprends. Nous vivons dans cette période où, comme croyants, nous sommes appelés à refléter la miséricorde divine envers les hommes. Où est Dieu actuellement par rapport à tel génocide? C'est une période de grâce où Dieu donne une chance aux méchants de se repentir et prend des notes et un jour il va opérer la justice. Méchants, devenez sages. Stupides, devenez intelligents. Parce que le jour de grâce va achever et la justice de Dieu va s'opérer. Mais Dieu est miséricordieux, puisqu'il n'élimine pas systématiquement tous les pécheurs, ce qui voudrait dire en gros qu'il n'y aurait plus personne sur la terre. D'accord? Mais Dieu est miséricordieux. Et donc nous, comme chrétiens, nous vivons dans cette période de grâce et nous sommes appelés à refléter cette miséricorde-là à travers des moments où les gens vont nous faire du mal. On est appelé par notre attitude, nos comportements, à être un écho de la miséricorde divine, de manière très visible et concrète. Dieu est abstrait, Dieu est invisible, on va en parler tout à l'heure. Dieu est invisible, il est abstrait. Mais quand quelqu'un me fait du mal, je m'en viens et en retour, je lui fais du bien. J'ai l'opportunité de rendre l'invisible visible. D'accord? Et comme ce Dieu invisible est actuellement miséricordieux, on est dans cette période d'attente du jugement final, où il invite les pécheurs à se repentir. Moi, je suis appelé par ma vie, par mes réactions devant le mal qu'on me fait, à donner un écho de cette miséricorde-là. Donc, c'est pour ça que là, j'arrive puis je dis, ouais, mais les psaumes imprécatoires, qu'est-ce que je fais avec moi lorsque je m'en vais les voir? Mais quand moi je retourne dans les psaumes imprécatoires, j'ai d'une part une sécurité qui m'est donnée de me dire, Seigneur, je sais que les non-croyants me disent que tu es un Dieu injuste. Je sais que les non-croyants me disent que tu n'existes peut-être pas parce que ta justice ne s'opère pas. Mais je sais qu'elle vient bientôt, ta justice, Seigneur. Je sais qu'elle vient bientôt. Et donc, je peux te prier pour mes ennemis de deux manières. En disant, Seigneur, aie pitié de lui, fais-lui grâce pour qu'il se repente. Fais-lui grâce pour qu'il se tourne vers toi. Et deuxièmement, Seigneur, s'il ne se repent pas, j'ai confiance en toi. Je n'ai pas besoin de me venger moi-même. La justice sera faite un jour. D'accord? Maintenant, les psaumes imprécatoires me servent à une deuxième chose qui est super importante, qui est extrêmement importante, parce que nous vivons après la venue de Jésus. Lorsque je lis un psaume imprécatoire, puis regardez bien, là, j'espère que je vais être le plus clair possible, là. Quand je suis en train de lire un psaume imprécatoire, à la lumière des Écritures, si je comprends bien Dieu, logiquement, les imprécations, les appels au jugement divin qui sont prononcés dans les psaumes imprécatoires sur mes ennemis, est-ce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas les prononcer contre moi? Est-ce que quelqu'un ici qui est un saint, qui n'a jamais fait souffrir des gens autour de lui, pour qui quelqu'un aurait pu dire, « Seigneur, frappe-le, tu vois bien ce qu'il me fait. » Alors, tous les psaumes imprécatoires, dans une certaine mesure, auraient pu être prononcés contre moi aussi. Quelqu'un d'autre aurait pu prier, « Seigneur, frappe Yannick, il me fait du mal. » Et la seule raison pour laquelle il n'y a pas une seule prière imprécatoire qui serait faite contre moi qui va tenir, c'est parce qu'il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui s'est placé sur la croix pour recevoir toutes les imprécations qui devaient venir sur mes épaules. C'est Christ qui est venu sur cette croix et qui a dit, « OK, toutes les imprécations, toutes les prières de jugement contre Yannick qui auraient pu être prononcées, fais-les tomber sur moi, Père. Fais-les tomber sur moi, Père. » Et il les a pris à ma place. Et voyez-vous, tous ces appels à la justice divine, Dieu les a entendus. Et il est venu fracasser son Fils sur la croix. Dieu les a entendus, toutes ces prières-là. Et il est venu fracasser son Fils sur la croix. Afin que moi, je n'ai pas à subir cette justice-là. Lorsque je m'en vais dans les psaumes imprécatoires, j'ai la perspective du Dieu juste qui un jour va opérer toute cette justice. Et j'ai la perspective de la croix qui fait que tous les jugements qui seraient dus pour moi aussi et qui seraient dus pour tellement de monde aussi, Christ les a pris pour celui qui se tourne vers lui. Et aujourd'hui, qui que ce soit qui voudrait faire un psaume imprécatoire contre moi va se buter au fait que Christ a pris toutes ces malédictions-là sur ses épaules à ma place. Voyez-vous, ça change ma perspective. On va parler des psaumes messianiques la semaine prochaine. Il nous reste juste ça à couvrir, mais je veux bien le faire. Alors, on va terminer ça la semaine prochaine. Ce matin, on a des baptêmes, mais je ne peux pas me permettre de prendre du retard. On va terminer avec un mot de prière. Éternel notre Dieu, merci, Père, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tous les psaumes. Seigneur, viens nous aider à comprendre cette poésie, mais non pas pour étudier de la poésie, pour en comprendre les leçons spirituelles tellement belles et riches, Seigneur, qu'il y a là. Seigneur, fais de nous des adorateurs qui viennent répandre leur cœur devant toi, qui n'ont pas peur de vivre une relation intime avec toi entière et vraie, Seigneur. Apprends-nous, Père, à lire les psaumes pour en tirer instruction au milieu de notre lamentation, que notre cœur retrouve l'espoir en toi. Au milieu des bénédictions, que notre cœur soit rempli de reconnaissance. Au milieu de ta création, que notre cœur soit rempli de louanges et que notre bouche déborde de louanges et que constamment nous invitions les gens autour de nous à te louer. Que confrontés par notre péché, notre cœur soit conduit dans une profonde repentance, Seigneur. Et que devant tous les maux, Seigneur, et tous les péchés, tout le mal et l'injustice que nous observons dans nos cœurs et dans ce monde, nos cœurs soient réconfortés de savoir qu'un jour, Seigneur, toute injustice sera jugée et que notre espoir à nous, c'est que nos injustices ont déjà été jugées à la croix pour nous. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Merci.